BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée avec, comme tous les jours, Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous êtes en forme aujourd'hui?
J'espère.
Allez, au sommaire de ce jeudi 8 décembre, la France compte une licorne supplémentaire. United rejoint le club avec une valorisation à 1,1 milliard d'euros. La fintech qui a réussi à lever des fonds dans un contexte assez morose. Pour les startups, on va en parler dans un instant avec Thomas Schnell. Pour les artisans dépassés par la facture énergétique, on savait que l'État allait prendre en charge 20% de la facture d'électricité des PME. Bruno Le Maire lui annonce cette aide supplémentaire, le prolongement du guichet énergie sur l'année 2023. Qu'est-ce que cela implique? Toutes les explications de Thomas Sasportas dans notre focus. Et puis, avec notre invité, nous allons parler chimie verte. Carbios, qu'on connaît bien sur BFM Business, son directeur général Emmanuel Ladan qui sera sur notre plateau. Il s'est attaqué, vous le savez, au recyclage de nos plastiques et il organise en ce moment un congrès mondial du bio-recyclage à Paris. Il nous expliquera où il en est. Et puis à midi, 32e partie de l'émission BFM avec vous, on répond aux questions que vous nous avez posées. Session spéciale auto-entrepreneur. Ce sera dans une demi-heure. Mais tout de suite, c'est le journal. La France qui compte donc une licorne supplémentaire. United rejoint le club avec une valorisation à un peu plus d'un milliard d'euros. Thomas Schnell, la fintech qui a réussi à lever des fonds alors que le contexte est quand même assez maussade en ce moment. Morose.
Oui, une levée à 60 millions d'euros près de plusieurs actionnaires. Eurazeo, Goldman Sachs notamment. United qui réussit un petit exploit avec ce tour de table malgré cette année compliquée pour la tech européenne dans son ensemble. 32 licornes seulement ont émergé. En 2022, c'est trois fois moins par rapport à l'an dernier, avec 85 milliards d'euros levés. Le repli est de 18% cette année. Et les valorisations des startups, de la finance en particulier, ont fondu avec les décisions successives de la Banque Centrale Européenne. Mais pour United, qui est spécialisé dans le crédit à la consommation, le premier semestre 2022 a été bon, de quoi donner confiance aux fonds d'investissement. Le cofondateur envisage même une rentabilité de son activité de crédit à la consommation classique dès la fin de cette année, avec une marge net en France et en Italie à 20%. Alors la fintech, elle, reste confiante malgré l'environnement complexe pour le secteur. C'est vraiment la seule qui s'en sort bien puisque la hausse des taux profite en fait à cette start-up de la finance qui lui autorise notamment un niveau de marge plus élevé que ses concurrentes.
Merci beaucoup Thomas Schnell. Moins de licornes cette année effectivement Jean-Marc, mais le secteur s'est un peu assaini ces derniers mois finalement.
Oui, c'est là aussi une forme de maturité.
Oui.
Et l'INSEE constate néanmoins qu'on n'a pas dans le paysage industriel français, on n'a pas beaucoup de moyennes entreprises, on a de très grandes entreprises, des PME, c'est une des caractéristiques de la France. C'est pas grave, hein. L'important c'est qu'on ait des entreprises.
Oui, effectivement, elles sont rachetées souvent. Hein.
Assez souvent rachetées, même il y a des créateurs d'entreprises dont le projet unique est d'être racheté à certains moments.
Donc, c'est le cycle, il y en a qui en profitent, c'est vrai.
C'est une vision entrepreneuriale un peu particulière, mais qui n'est pas stupide pour autant.
Ça se défend. Et puis une autre licorne qui, elle, ne connaît pas la crise, c'est Sorare, hein, spécialisé, vous le savez, dans les cartes de jeux numériques. Nicolas Julia a été l'invité de Good Morning Business ce matin. La période de la Coupe du Monde, évidemment, lui est favorable, on l'écoute.
Une de nos forces, c'est de pas être adossé en fait au marché crypto en particulier, parce qu'il y a une valeur d'usage en fait autour.
Avoir une carte pour pouvoir jouer.
Exactement, qui est très importante. On est une anomalie entre guillemets dans le monde du Web3 puisqu'on a continué à croître cette année. On a fait 270 millions de volume d'affaires en 2021. On est déjà à 500 millions en 2022. Donc on a une croissance très forte. C'est le sport qui compte chez nous. C'est la saisonnalité en fait qui va impacter tout ça. C'est évidemment la performance du sportif. C'est la rareté de la carte. C'est le design de la carte qui va compter. Ouais.
Et en parlant de licorne, notez bien que Charlie Glil, cofondateur et président de United, cette nouvelle licorne, sera l'invité ce soir de Tech & Co. Ce sera à 20h10. Dans ce journal également, les fêtes de fin d'année. On est tout près dans le contexte inflationniste. Opinionway adressé pour Bonial à un état des lieux des usages des consommateurs français pour réaliser leurs achats de Noël. L'un des enseignements, c'est la résistance des boutiques physiques. Charlotte Guerre.
Oui, les boutiques résistent puisque 8 acheteurs sur 10 ont prévu de faire leur cadeau de Noël directement en magasin. C'est 10% de plus que l'année dernière, mais le e-commerce n'a pas dit son dernier mot puisqu'il est encore plébiscité par 70% des acheteurs, tout âge et catégories socio-professionnelles confondues. Et le grand gagnant, c'est Amazon qui séduit cette année encore hein, puisque près d'un acheteur sur deux va y faire ses cadeaux de Noël. Alors cette année, les Français comptent acheter en moyenne 7 cadeaux. Avec un budget moyen de 446 euros, c'est 30 euros de plus que l'année dernière. Maintenant, en termes de comportement d'achat, il y a ceux majoritaires qui font leur choix en fonction des offres du moment, des promos. Ils sont 3 acheteurs sur 10. Au même niveau, il y a ceux qui réalisent leur liste de cadeaux à l'avance et qui s'y tiennent par la suite. On peut noter aussi que 14% des Français, eux, ne vont pas faire attention à leurs dépenses ou encore qu'ils sont 15% à ne tout simplement pas acheter de cadeaux pour Noël. Alors, si la moitié des acheteurs a déjà réalisé ses achats pour Noël, l'autre moitié préfère attendre le mois de décembre, dont une majorité de consommateurs qui attendent les promos.
Et n'oubliez pas, ce soir, à partir de 18h, Good Evening Business en direct de Lyon, en plein cœur du centre commercial The Village, où il sera bien évidemment question de Noël. Jean-Marc, les achats de Noël, boutique
oui,
physique,
alors,
site internet.
C'est une excellente idée d'aller à Lyon, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête de la lumière.
Ouais,
donc,
voilà.
La fête des lumières, la ville va être illuminée. C'est un bon signe. Hein. Quand on commence à avoir des fêtes autour de la lumière, c'est que bientôt les jours vont se remettre à allonger. Et puis moi, j'attends toujours avec impatience le 26 décembre pour voir combien il y a de gens qui revendent leurs cadeaux. Vous savez que c'est un vrai.
Vous êtes cynique, Jean-Marc Daniel.
Et donc, ça, c'est un bon indicateur de la vitalité du marché dans l'esprit des Français.
Exactement, toujours le business. C'est l'heure de notre focus. Et cette annonce de Bruno Le Maire, ce matin, une nouvelle aide pour les PME face au prix de l'énergie. Thomas Asportas, le guichet électricité qui devait s'arrêter à la fin de l'année et qui est finalement prolongé l'année prochaine, toute l'année prochaine, 2023.
Oui, annonce faite ce matin, effectivement, par Bruno Le Maire chez nos confrères de RMC. Les PME, finalement, vont avoir droit l'année prochaine à deux aides pour payer leur facture d'électricité. La première, c'est un nouveau dispositif qui va entrer en vigueur au 1er janvier, c'est l'amortisseur électricité. Toutes les PME dont le prix du mégawattheure dépassera les 180 euros y auront droit. Et l'État paiera en moyenne 20% de la facture d'électricité de l'entreprise, sans qu'il n'y ait rien à faire, hein, ce sera directement déduit de sa facture. Et puis il y aura donc effectivement une deuxième aide qui existe déjà, qui est en place depuis le mois de mars, qui devait s'arrêter à la fin de l'année pour les PME et qui finalement est prolongée l'année prochaine, c'est le guichet électricité. Pour y avoir droit, les PME doivent avoir une facture énergétique qui a augmenté d'au moins 50% et que cette facture représente au moins 3% de leur chiffre d'affaires. Et Bruno Le Maire dit que le guichet électricité plus l'amortisseur électricité, ces deux aides cumulées, eh bien ça fait que la facture d'électricité des PME va baisser en moyenne de 35% l'année prochaine. Ce sera payé par l'État et le reste de la hausse, eh bien il passera en partie dans la hausse des prix aux consommateurs et l'autre partie dans la baisse des marges des entreprises.
Et alors c'est la question qui va intéresser Jean-Marc.
La question
qui
Jean-Marc
réagira
Daniel.
Après, mais combien va coûter cette nouvelle aide, Thomas ?
Eh bien Bercy nous dit que ce sera indolore, ça va pas coûter plus d'argent que ce qui avait été prévu. Pour une raison toute simple, c'est que le guichet électricité cette année, il n'a quasiment pas été utilisé. Parce qu'il y avait une règle qui écartait quasiment toutes les entreprises, c'est qu'il fallait que leur excédent brut d'exploitation ait baissé d'au moins 30%. C'est énorme, c'est un niveau trop élevé qui a quasiment écarté du coup toutes les entreprises. Depuis, ce critère a été supprimé pour les PME, il faut juste qu'elles aient dorénavant une simple baisse de leur excédent brut d'exploitation. Mais donc le résultat alors où on se parle, c'est que toute enveloppe qui était prévue pour ce guichet électricité est restée intacte. Et donc, il y a très concrètement 7 milliards d'euros disponibles l'année prochaine pour le guichet électricité, plus 3 milliards pour l'amortisseur électricité, donc en tout 10 milliards pour soulager la facture d'électricité et d'énergie des entreprises, sachant qu'il y a aussi le bouclier tarifaire pour 1,5 million de TPE, c'est-à-dire le plafonnement à plus 15% des prix du gaz et de l'électricité. Il y a aussi les 100 TWh d'électricité que les entreprises peuvent acheter à tarif régulé avec l'AREN. Et enfin, il y a la quasi-suppression de la TICFE, c'est-à-dire la plus grosse taxe que les entreprises payent pour leur consommation d'électricité. Donc on voit bien au total qu'il y a quand même beaucoup d'aides pour les entreprises. Et à l'heure où l'État dit qu'il va passer à des aides beaucoup plus ciblées l'année prochaine, la direction du Trésor vient de publier il y a quelques heures une étude très intéressante sur l'impact du choc énergétique sur l'économie française et sur qui paie la facture. Le Trésor évalue le choc cette année à 85 milliards d'euros. Il dit que s'il n'y avait aucune aide de l'État, le choc aurait été de 32 milliards pour les ménages, 50 pour les entreprises et 3 pour les finances publiques. Mais avec toutes les aides déployées cette année, le choc est finalement de 5 pour les ménages, pas 32 milliards, mais 5 milliards, de 36 pour les entreprises et de 44 pour l'État, pas 3 milliards, 44, c'est-à-dire plus de la moitié du choc. Donc à la fin des fins, et je passe la main à Jean-Marc Daniel, ce sont les finances publiques,
son sujet
évidemment,
préféré.
Qui paient la facture.
Jean-Marc.
Une nouvelle fois, l'argent magique est au rendez-vous.
Mais oui.
Je rappelle quand même la formule de Bastiat qui disait que l'État est une fiction sur le plan économique. C'est juste un moyen qu'ont trouvé certains pour vivre aux dépens des autres. Et donc là, on a trouvé un moyen de faire vivre une nouvelle fois le consommateur d'aujourd'hui aux dépens de,
consommateur le,
de demain et du contribuable de demain. Il y a une forme d'égoïsme intergénérationnel que, à titre personnel, je trouve de plus en plus insupportable.
Mais qui a été aggravé par la pandémie au départ.
Oui, oui. Mais alors, on pouvait penser, effectivement, l'argent magique avait une justification dans des circonstances qui étaient d'une violence inouïe. Cette pandémie était quelque chose à la fois inédit et secouait véritablement la société. Mais là, maintenant, demander aux consommateurs de faire des efforts, vous savez, en 70, on a fait cette erreur jusqu'à l'arrivée de Raymond Barre. Et Raymond Barre a un peu réorienté les curseurs. Nous attendons le nouveau Raymond Barre. J'ai du mal à repérer qui c'est dans le paysage. Mais on aurait besoin de nouveaux Raymond Barre.
Néanmoins, Jean-Marc, bon, faut quand même pas mettre de côté, c'est vrai qu'il y a un aspect politique, mais il faut pas mettre de côté tous ces secteurs qui ont besoin des aides, quelles qu'ils soient. C'est vrai qu'on en parle tous les jours, quel que soit le secteur.
Pour les entreprises, c'est une réalité. Oui, pour les entreprises, qu'on leur donne un peu, comme on l'avait fait avec les PGE, qu'on leur donne les moyens de vivre dans une circonstance et de survivre dans des circonstances qui sont un peu particulières. Mais je rappelle quand même qu'à moyen terme, il y a le grand principe, vous savez, quand Colbert avait fait venir le prévôt des marchands de Bordeaux. Et il lui avait demandé...
Comme par hasard.
Il lui avait demandé, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et le gendre, il s'appelait, lui avait répondu, oubliez-moi. Je pense qu'il y a un moment où les entreprises devraient dire à monsieur le maire, oubliez-nous.
Merci en tout cas, Thomas Asportas. Nous ferons une émission spéciale consacrée aux aides dédiées aux entreprises le 16 décembre prochain avec Lorraine Goumeau et en compagnie du médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet, qui sera sur ce plateau pour répondre à toutes vos questions. Tout de suite, l'édito de Jean-Marc.
BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Ah bah tiens Jean-Marc, l'État, qu'est-ce qu'il va faire? L'État, il va emprunter. Et il va emprunter combien? 270 milliards.
Exactement,
oui,
la concrétisation de ce que nous venons dire, c'est qu'en 2023...
Bah, il a besoin d'argent.
Voilà. Entre le déficit budgétaire qu'il va falloir couvrir, plus les emprunts qui arrivent à échéance et qu'il va falloir renouveler, on va avoir une ponction sur les marchés financiers de 270 milliards
record absolu.
D'euros. C'est le record absolu. Oui. La France est devenue le deuxième emprunteur au niveau des pays occidentaux. Le Japon et les États-Unis sont plutôt... les États-Unis très nettement devant elles. Le Japon, on est un peu dans la même zone. Et on emprunte plus sur les marchés maintenant que l'Italie. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est soutenable, pour employer un mot à la mode, est-ce que c'est supportable, pour employer une expression plus française? À moyen terme, pour l'instant, ça n'a été supportable et soutenable que parce que, à la fin des fins, les prêteurs savaient qu'ils pouvaient rapporter, depuis 2012, la dette en question auprès de la Banque centrale, si jamais il y avait un doute sur la capacité de l'État à honorer ses engagements. Là, je pense qu'à ces niveaux-là, les prêteurs vont se poser la question de savoir si l'emprunteur, effectivement, a la certitude, la garantie que la Banque centrale jouera ce rôle de prêteur en dernier ressort. Donc, derrière ces 270 milliards, il y a un véritable enjeu qui est les rapports que vont nouer les États et singulièrement la France avec la BCE dans les quelques mois qui viennent. Dès lors que les banques centrales commencent à dire on va peut-être arrêter d'acheter, on va peut-être réduire notre bilan, le doute est en train de s'instiller. Et j'insiste sur
C'est très risqué quand même.
C'est assez risqué. La Banque centrale ne peut pas se permettre de recréer une crise de la nature de ce qu'a été la crise grecque.
D'autant qu'on n'est pas les seuls, vous l'avez dit.
On n'est pas les seuls. Mais je pense quand même que la Banque centrale aura besoin, pour garder sa crédibilité, d'obtenir des engagements fermes des États. Et il y a déjà des agences de notation qu'on avait oubliées, qui avaient disparu du paysage, les grandes agences de notation, qui avaient été les héroïnes des années 2011-2012, qui annoncent qu'elles vont repartir à l'assaut des États et se posent des questions sur le fait si elles ne vont pas dégrader la note de la France. Oui. Donc 270 milliards, c'est trop.
Donc peut-être que le fait d'être à nouveau regardé à la loupe va peut-être
inciter nos dirigeants à faire des économies et à arrêter de croire en l'argent magique.
Merci beaucoup Jean-Marc, on fait un point à Euronext tout de suite. Avec toujours Antoine, cet incroyable sentiment d'indécision à la mi-journée.
Mais oui, ça peut paraître très très paradoxal, parce que c'est vrai qu'on a un CAC 40 qui se cherche encore une direction depuis l'ouverture. On est en très légère baisse, moins 0,18%, 6648 points. Alors on arrive à une zone de support qui généralement déclenche des intentions d'achat. Là pour l'instant, elle ne se matérialise pas. On reste vraiment sur notre ligne de flottaison. Même chose pour l'Eurostock 50, moins 0,25 et moins 0,38 pour le DAX à Francfort. Alors que par ailleurs, on a quand même des signaux de volatilité un petit peu partout. On a quand même 4 séances de baisse consécutives du côté de Paris, 5 séances du côté de Wall Street, une très forte correction qui perdure sur les marchés pétroliers. $77.50 pour le baril de Brent de mer du Nord, le brut léger américain au plus bas de l'année à nouveau à $72.40, et donc des signaux d'un marché un petit peu stressé un petit peu partout. On a notamment l'indice VIX du côté de la bourse américaine qui remonte au-delà des 22 points, hein, quasiment 23. Du côté des valeurs, à signaler une forte hausse quand même, c'est celle de De Richbourg, leader du SBF 120, après des résultats tout simplement historiques, hein, pour le groupe qui gagne 8,5% à 5,67€. Belle performance d'Elior, plus 3,29€ à 3€. On a ArcelorMittal, leader du CAC 40, plus 2 à 25,76€. À la baisse, encore une séance difficile pour EuroAPI après sa dégringolade d'hier. Le titre perd encore 4,2% à 13,80€. Après un avertissement sur bénéfice, on a Seb aussi qui perd 4% à 79,90€, ou Ubisoft, moins 3,34€ à 27,20€. Le CAC donc moins 0,19%, 6648 points, et l'euro 1,0507.
Et il y a un petit peu de mieux du côté des cryptos, Antoine, on se remet un peu de la correction d'hier matin.
Oui, effectivement, ça a l'air de vouloir remonter un petit peu. Enfin, ça reste très, très laborieux. 16 800 pour le Bitcoin, 1230 pour l'Ether. Et puis, on a l'XRP qui repasse le cap des 38 cents. Donc là, le rebond se confirme.
Merci beaucoup Antoine Larigaudry. Dans un instant, notre invité, on va parler de chimie verte avec Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios, qui non content de recycler les bouteilles plastiques et les pneus, s'est attaqué il y a quelques mois au polyester. Bah, toute l'industrie est dans son viseur. On va en parler dans un instant. A tout de suite.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
Et avec nous ce midi, Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir à nouveau, on vous connaît bien sur BFM Business, on suit votre évolution. Vous me donniez ce chiffre il y a quelques secondes, moins de 15% des plastiques sont actuellement recyclés. C'est là que vous entrez en jeu en fait.
Absolument.
Oui.
Carbios, c'est la seule entreprise au monde à maturité industrielle à recycler biologiquement, donc à base d'enzymes. Les plastiques, alors on a commencé avec les PET, ce qui sont les plastiques qu'on trouve dans les bouteilles, les barquettes alimentaires et les vêtements en polyester. Avec nos technologies, on va pouvoir passer de moins de 15% à 100% des plastiques recyclés.
Oui, parce qu'avec votre procédé, en fait, vous décomposez, déstructurez le plastique pour le ramener à sa base et faire à nouveau des produits derrière qui seraient recyclables à l'infini.
Absolument, c'est la nouveauté. En fait, nos enzymes viennent jouer les rôles de ciseaux sur la matière première plastique. On découpe le plastique en petites molécules, on revient aux composants de base du plastique qu'on réassemble et on peut refaire un plastique de qualité vierge quasiment à l'infini. Donc à partir d'un t-shirt, on va faire une bouteille, à partir d'une bouteille, on va faire un t-shirt et c'est extrêmement flexible. Et surtout, 100% des plastiques vont pouvoir être recyclés avec cette technologie.
Alors, vous organisez en ce moment, là, depuis hier, un congrès mondial du biorecyclage pour rassembler les acteurs du monde entier sur cette question. L'idée, c'est quand même de trouver un maximum de partenaires et finalement d'intégrer le plus de filières industrielles possible.
Oui, il y a de la recherche dans le monde entier. Donc, on a des scientifiques qui viennent du monde entier parce que la recherche enzymatique qui est à la pointe de ce que fait Carbios depuis... Carbios est à la pointe de ça et ça fait plus de 10 ans qu'on en fait, mais la recherche enzymatique se développe. Et donc plutôt que de travailler chacun dans nos coins, on s'est dit il vaut mieux rassembler tous les chercheurs au monde, surtout des chercheurs qui travaillent dans des grandes universités avec beaucoup de moyens, rassembler cette science et faire en sorte que tout cet écosystème travaille ensemble. Donc aujourd'hui, on a des chercheurs du Japon, de tous les pays européens, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, qui viennent et qui échangent leurs travaux et vont nous permettre d'aller encore plus vite et encore plus loin dans nos technologies.
Jean-Marc.
Alors clairement, vous êtes en pointe par rapport à l'ensemble des autres acteurs. Et quels sont les pays qui sont un peu dans les starting blocks, qui vont être vos concurrents d'une certaine façon?
Alors sur le recyclage biologique, la chance qu'on a, c'est qu'on a démarré très tôt. On a énormément d'expertise et aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir le faire à échelle industrielle. Mais on se dit que la science avance et puis il vaut mieux être dans les être au courant des derniers développements, voire nouer des partenariats. En
fait, vous parliez du Japon et tout ça parce que nous on nous explique toujours c'est la Chine et les États-Unis qui font tout. Là, manifestement, c'est ni des Chinois, vous n'êtes ni Chinois ni Américains. Et le Japon, tout ça, ces pays sont aussi en avance ou
tous les pays sont préoccupés aujourd'hui d'aller plus vite dans le recyclage des plastiques. Moins de 15% des plastiques recyclés, c'est une vraie problématique. Donc la problématique de recyclage des plastiques, c'est une problématique mondiale. Donc la communauté scientifique, elle est mondiale. Maintenant, on a la chance en France d'être les seuls à avoir été aussi loin, à avoir déjà une usine qui a démontré une technologie, à construire une première usine dans le nord-est de la France. Donc on est en pointe et on est très fiers d'être français.
Et qui vous finance ? Est-ce que vous avez de la BPI, par exemple ? Ou est-ce que vous avez vraiment des capitaux privés ?
On a des capitaux privés. On est en bourse depuis 2013. On a été coté très vite au démarrage de Carbios pour lever des fonds. Et puis aujourd'hui, on a des investisseurs de tout ordre. Des grandes marques qui nous soutiennent. L'Oréal, l'Occitane, Michelin. Beaucoup de fonds ESG qui sont entre capital. Et puis des petits porteurs du retail, comme on dit. Et pour Carbios, c'est une chance. Parce que finalement, notre enjeu, c'est de devenir mondial. Et donc d'avoir une ouverture le plus possible de notre capital.
Justement, vous disiez, parce que ça dépasse finalement l'ampleur d'une simple entreprise, vous l'avez dit, c'est tout un écosystème qu'il faut créer dans ce pays, en Europe, dans le monde, avec des partenaires pour travailler ensemble. Vous avez passé, vous l'avez dit, des partenariats dans plein de domaines, les bouteilles plastiques, PepsiCo, L'Oréal, Nestlé Waters, Michelin, vous l'avez dit, mais aussi les vêtements, Patagonia, Puma, Salomon, tout ça pour intégrer finalement les industries. En termes de production et de recyclage, vous vous installez sur leur site, c'est ça le but, ou vous faites venir leurs produits chez vous ?
Alors, notre ambition, c'est que, à partir de déchets, soit plastique ou textile, on fabrique les composants de base du plastique qu'on renvoie aux fabricants de plastique. Notre technologie est complètement plug and play. Elle nous permet de redonner aux fabricants de plastique les composants de base dont ils ont besoin. Mais nos produits sont fabriqués à partir de déchets et non plus à partir de pétrole. Donc c'est ça le renversement de tendance. Aujourd'hui, la demande pour le plastique recyclé est en train d'exploser parce qu'il y a à la fois des normes et des règlements qui viennent imposer aux fabricants d'incorporer du plastique recyclé. Mais aussi, il y a des engagements des grandes marques. Vous en avez cité toutes les grandes marques partenaires de Carbios et d'autres qui ont pris des engagements de plus de recyclage dans leur contenu. Donc finalement, on est dans une dynamique de marché extrêmement forte. Mmh. On produit dans le monde 460 millions de tonnes de plastique chaque année. Et ça n'est pas en train de baisser. C'est une tendance à la hausse. Mmh. Donc il est urgent de pouvoir apporter des solutions de recyclage qui soient des solutions circulaires. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de refaire un plastique quasiment à l'infini avec nos technologies.
Mais alors quand on voit l'ampleur du projet finalement et les financements que ça va demander, là vous nous parlez d'un site de production pour le moment, mais vous comptez en ouvrir combien au final ? D'ici 10 ans par exemple ?
Il va falloir en ouvrir des dizaines.
Ouais.
Mais ce qu'on va faire chez Carbios, notre modèle, c'est finalement d'avoir un appartement témoin en France. On est très fiers de faire notre première usine en France. C'est un peu notre vitrine technologique.
Oui.
Mais derrière, on va licencier notre technologie. Donc ce sont les fabricants de plastique, les entreprises de waste management ou d'autres fonds qui vont investir dans notre technologie et qui vont monter ces unités avec notre technologie. Donc notre métier va devenir d'être provider de technologie et pas nécessairement d'avoir en propre toutes ces usines.
On a la connaissance en recherche et développement, je veux dire, on est au top de ces techniques-là.
Véritablement, aujourd'hui, on est au top. Ouais. On est au top parce qu'on a su nouer les partenariats nécessaires. Aujourd'hui, Carbios, dès le début, a travaillé avec un écosystème, avec l'INSA, avec le CNRS, avec l'INRA, avec le Toulouse Biotech Institute. Mmh. Donc on est vraiment au top de cette recherche. Et en plus, on noue des partenariats mondiaux maintenant pour pouvoir asseoir notre technologie sur des partenariats scientifiques mondiaux.
J'ai une dernière question. Vous étiez venu pour recruter sur BFM Business. Ça a fonctionné ?
Ça a marché. On reçoit beaucoup de CV.
Et vous savez, c'est quel profil ? Rappelez-nous.
On a tout type de profil. Ouais. On cherche des opérateurs de production, on cherche des scientifiques, on cherche... Mais finalement, se faire connaître, on apporte tellement une solution à la planète qu'on arrive à attirer des talents. Et puis oui, effectivement, l'émission BFM nous a amené des CV.
Bah, tant mieux, on est ravis en tout cas. Merci Emmanuel Ladent d'être venu nous voir, directeur général de Carbios, qu'on va continuer à suivre évidemment de près dans vos projets. Tout de suite, le top 3 du web.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 du web, les articles qui vous ont le plus intéressé sur notre site et le moment préféré de Jean-Marc Daniel. Alors, exactement. On va commencer par ce classement Forbes. Tiens, bah oui, évidemment.
Ah ben oui.
Des plus grandes fortunes planétaires. Classement dont Bernard Arnault a pris la tête hier pendant 33 minutes, Pierre.
Oui, et si le PDG de LVMH a devancé hier Elon Musk, c'est surtout parce que l'action Tesla connaît des variations de cours particulièrement erratiques. C'est un peu le propre hein, de ces classements de grande fortune en temps réel. Ils ne veulent pas dire grand-chose, mais ils focalisent tout de même l'attention du public. Alors, je ne sais pas, Jean-Marc, si vous consultez le classement de Forbes ou celui de Bloomberg tous les jours, mais je vous pose cette question quand même. Est-ce que Bernard Arnault y a déjà figuré en tête par le passé ?
En tête, je ne suis pas sûr, mais il a toujours été dans le peloton, dans les top 3, il a toujours été...
Il a été en tête en mai 2021, et là encore, ça n'a pas duré longtemps.
Oui, le taux de change de l'euro aussi, sur sa position dans le classement. Et non, le seul commentaire que je ferai, c'est de rappeler ce vers de Corneille. Jamais un envieux ne pardonne au mérite. J'espère que les auditeurs téléspectateurs, non seulement ne pardonnent pas, mais admirent, ne se posent pas la question d'avoir à pardonner à Bernard Arnault, mais admirent le parcours de Bernard Arnault.
Et on poursuit avec l'autre milliardaire, oui. Le concurrent Elon Musk et ce feuilleton Twitter qui lui aussi passionne, Pierre.
Ah bah oui, alors le sujet qui fait parler aujourd'hui.
Ah, Jules Verne.
Non, oui, enfin oui. Ce sont les chambres, d'ailleurs c'est pas très Jules Verne, hein. Les chambres aménagées par la direction de Twitter pour permettre aux salariés de dormir sur place et donc de se consacrer corps et âme au redressement. La BBC a dévoilé les photos des couchages mis à leur disposition. Alors on est un petit peu entre la chambre et le dortoir avec... quelques vrais matelas, mais beaucoup, beaucoup de canapés qui ont été reconvertis en lit d'appoint. Et sur Twitter, il y a même été posté, c'est assez fou, la photo d'un lave-linge dans les bureaux. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce nouvel épisode Twitter ?
J'avais commencé en parlant de Jules Verne. Là, ce qui m'inquiète, c'est que c'est plutôt Dickens. C'est la description des usines du Royaume-Uni dans les années 1840 où effectivement, les ouvriers, certains, étaient obligés de coucher sur place parce qu'ils n'avaient pas le temps d'entrer chez eux. Et... c'est une évolution qui n'est pas forcément très sympathique.
Bon, il assume.
Hein, il assume. C'est dans la oui. C'est le caractère du personnage, c'est d'aller dans la provocation. Mais là, ça devient un peu inquiétant. Quand
même. Allez, très vite, on finit par cet article de Mathieu Pechberti qui explique fort bien pourquoi EDF ne tient jamais son calendrier de redémarrage des réacteurs nucléaires, Pierre.
Oui, alors, on apprend notamment dans cet article passionnant que depuis 3 ans, RTE ne croit plus du tout aux annonces faites par EDF et que, par exemple, si... un réacteur doit être arrêté 4 semaines, RTE table sur au moins 5 semaines, avec un retard de 7 à 10 jours. Donc Jean-Marc, je vous pose la question, est-ce que vous savez pourquoi EDF ne tient jamais ses délais ?
Non, j'ai écouté le président de la République, il ne faut surtout pas s'inquiéter, donc je ne lis même pas ce genre d'article.
Eh bien sachez que c'est parce que le groupe livre à chaque fois sa vision la plus optimiste, quitte à la décaler plus tard. Et le porte-parole cité par Mathieu explique que EDF ne peut pas prendre de marge de précaution, que l'entreprise doit livrer ses informations au quotidien pour ne pas être accusé de les cacher au marché.
Finalement, je vais lire cet article et j'invite les auditeurs, les spectateurs à le lire parce que manifestement, c'est solide.
Allez, voilà, c'était le top 3 du web. Merci Pierre Kupferman, à demain. Merci Jean-Marc, à demain.
À demain.
À midi. Allez, dans un instant, BFM avec vous. À tout de suite.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, le gouvernement prolonge les aides à destination des PME pour les aider à faire face à l'explosion des coûts de l'énergie. Jusqu'à présent, l'État prenait en charge 20% de la facture d'électricité. Ce matin sur RMC, Bruno Le Maire annonce le maintien du guichet énergie sur l'année 2023, ce qui allégera la facture à hauteur de 35%. On l'écoute.
Pour répondre à cette demande et cette inquiétude de toutes les PME qui consomment beaucoup d'électricité, il y aura donc cet amortisseur, 20%, et nous maintiendrons le guichet qui existe aujourd'hui au 1er janvier 2023. Ça représentera un allègement de la facture, cette fois jusqu'à 35%.
Je voudrais qu'on se mette un tout petit peu à la place de celui dont vous imaginiez le scénario. Il voit sa facture passer de 1 000 à 4 000 euros. À la fin, il paiera combien ?
Il va déclarer sa facture au guichet de manière très simple au 1er janvier 2023 et sa facture sera ramenée à 2 600 euros.
Ça veut dire
35%
qu'à la fin,
en moins.
Toujours à propos d'énergie, Engie remporte aux enchères un projet de parc éolien maritime flottant au large de la Californie. Sa capacité de production est de 2 gigawatts, soit l'équivalent de l'alimentation électrique de 900 000 foyers, montant de l'enchère 150 millions d'euros. La Haute Autorité de Santé rend un avis défavorable pour le vaccin anti-Covid de Valneva. Le titre a chuté de 3% avant de se reprendre. En revanche, les vaccins de Sanofi, GSK et de Novavax obtiennent le feu vert de l'autorité pour être utilisée en dose de rappel pour les adultes. La CNIL inflige à Free 300 000 euros d'amende. Des contrôles ont constaté plusieurs manquements dans le respect des droits des personnes et de la sécurité des données de ses utilisateurs. La sanction rendue publique ce matin a été prononcée le 30 novembre dernier. Une nouvelle licorne est née. United, fintech spécialiste du crédit à la consommation en ligne, lève 60 millions d'euros, valorisant l'entreprise à plus d'un milliard d'euros. Charles Aigli, le patron de United, est l'invité ce soir de Tech & Co. Ce sera à partir de 20h10. Et puis, autre levée de fonds, Carmat a annoncé une augmentation de capital de 31 millions d'euros. Elle va lui servir à monter en puissance dans la production de ses cœurs artificiels, production qui a repris le mois dernier. Le rachat de l'OL joue les prolongations. Un nouveau report, le troisième, est accordé au milliardaire américain John Textor. Mais cette fois, OL Group fait état de progrès vers une finalisation. L'opération est estimée à 800 millions d'euros. On jette un coup d'œil au marché à la mi-journée. Le CAC évolue toujours dans le rouge, moins 0,15%, 6 651 points. Et puis à noter, parmi les rendez-vous de la journée sur l'antenne de BFM Business, émission spéciale à partir de 18h, Good Evening Business. Ce sera en direct de Lyon, en plein cœur du centre commercial The Village. Il sera question de Noël et de consommation, Sandra.
Merci beaucoup, Stéphanie Collo.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous à 12h34 et nous répondons à toutes les questions que vous nous avez posées. Aujourd'hui, on s'adresse aux indépendants, aux micro-entrepreneurs. Et cette question, comment négocier ces tarifs? Vous nous avez posé beaucoup de questions. On va essayer d'y apporter des réponses avec vous, Ludovic Badeau. Bonjour.
Bonjour Sandra.
Spécialiste du régime de la micro-entreprise. On va commencer par cette question très simple d'Hélène qui nous a écrit par mail et qui nous demande concrètement quels seront vos conseils pratiques pour réussir une négociation?
C'est une très bonne question parce que très souvent, la négociation, elle est négligée, voire oubliée. Très souvent, l'auto-entrepreneur, le freelance, l'indépendant, il va vouloir contractualiser, il va vouloir acter la vente, il va vouloir vendre finalement, et il omet complètement cette phase de négociation. D'ailleurs, il va confondre le fait de vendre avec le fait de négocier. Mmh. Et une négociation, en réalité, ça respecte un processus assez carré, assez structuré.
C'est une vraie partie finalement.
C'est une vraie partie, c'est un moment à part entière, j'ai envie de dire, qui est avant la vente et qui va permettre que les deux parties y trouvent leur compte en définissant un cadre structuré, en définissant un tarif qui convient à chacun, en fixant des délais. Et tout ça, ça va se préparer, ça va se travailler. Une négociation, c'est 4 étapes. Tout d'abord, on va préparer. On sait combien trouver des contacts intéressés pour travailler avec nous, ça coûte cher quand on est une entreprise. Donc, il faut bien préparer les entretiens qu'on arrive, les rendez-vous qu'on arrive à décrocher. La préparation, c'est quoi? C'est déjà de se renseigner sur son prospect, d'aller voir son profil LinkedIn, de visiter le site internet, de comprendre l'activité, de comprendre avec qui on va échanger, et puis de comprendre ce que fait la personne, quelle est sa fonction, etc. Ensuite, c'est de préparer sa présentation, c'est vraiment fondamental, de préparer une présentation structurée, esthétique, agréable, claire, détaillée, argumentée, et d'accompagner tout ça d'un discours qu'on va répéter, même seul, devant son ordinateur, pour voir comment est-ce que je vais déplier finalement ma présentation. Et c'est très très important parce que la présentation, qu'il s'agisse de la présentation visuelle ou du discours, vont participer de ce qu'on appelle la valeur perçue. La valeur perçue, quelle est la perception du client pour ce que vous proposez, au-delà, je vais dire, des coûts basiques, des coûts élémentaires, des coûts de production. Quelle est la perception? Et cette perception, elle va passer par la manière dont vous présentez les choses, dans la manière dont vous vous présentez, dans la manière dont vous présentez à travers votre présentation et à travers le discours. Donc ça, c'est la préparation. Et la deuxième étape qui est fondamentale et qu'il ne faut vraiment pas omettre, c'est on n'arrive pas quand on a le rendez-vous avec le client de manière, voilà, regardez ma présentation, regardez ce que j'ai à vous proposer, en plus j'ai les meilleurs prix. Non, l'idée c'est vraiment d'écouter, de poser des questions, d'interroger, de laisser parler, de faire, d'ouvrir, je veux dire, des questions très ouvertes pour créer du dialogue, pour vraiment comprendre à qui on a affaire en termes de personnalité, en termes de besoins. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis reformuler, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de reformuler hein, pour relancer la conversation, pour faire comprendre à votre interlocuteur que vous comprenez ce qu'il est en train de vous expliquer. Donc reformuler avec des mots simples, avec vos mots, ça rassure, ça crée voilà, une connexion entre les personnes. Et puis à partir de là, ben voilà, faire sa présentation en s'assurant toujours que la personne qui est face à vous est active et que vous n'êtes pas entré dans un monologue. Et puis avant de passer, on l'espère, voilà, à la concrétisation, oui. Pour effectivement répondre aux besoins. Si ça répond aux besoins, voilà, aller vers la concrétisation.
Douty nous demande, est-ce qu'il est judicieux d'avoir des prix affichés, clairs, ou est-ce qu'il vaut mieux personnaliser chaque proposition tarifaire, un petit peu s'adapter finalement pendant cette étape?
Oui, absolument. De mon point de vue, les clients aiment la clarté tarifaire. C'est fondamental. Je pense qu'il y a eu une époque où on était beaucoup dans, entre guillemets, à la tête du client. C'est-à-dire qu'on arrivait, le client arrivait, puis on se disait, tiens, lui, je vais pouvoir lui mettre tel prix, lui, je vais lui mettre tel prix, etc. Et je crois que ça, c'est un peu révolu. Les clients sont attachés, les prospects sont attachés à cette question de savoir, bon, sans parler d'avoir un prix fixe tout de suite, mais une grille tarifaire, des indications à partir d'eux. Je pense effectivement que ça rassure et que ça va faciliter la prise de contact, la prise de rendez-vous par le prospect qui se dira, ok, je sais à peu près où je mets les pieds économiquement et ça apporte aussi, je dirais, une certaine transparence qui est rassurante.
Ça veut dire qu'il faut que ça arrive assez tôt dans le processus, finalement, cette clarté, comme ça le client sait où il va et si cela ne lui convient pas, on arrête tout de suite.
Oui, complètement. Je pense que ça doit être indiqué sur le site internet, par exemple, sur les supports de communication. C'est ce qui marche aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement un tarif à partir d'eux, qui est une indication qui rassure.
Est-ce que, nous demande Loïs via Facebook, est-ce qu'il faut, quand on lance son activité, peut-être se brader le temps de se faire une clientèle? Est-ce que c'est une bonne idée ou finalement, il faut rester sur les tarifs qu'on avait choisis et quitte à les garder après?
Bon, je pense que ça fait partie du jeu. Quand on crée une entreprise, il faut accepter qu'au départ, si on n'a pas de référence, si on n'a pas de portfolio, si on n'a pas voilà, d'ancienneté, si on n'a personne pour nous recommander, il faut créer finalement cette base de crédibilité. Et donc, il faut accepter qu'au départ, effectivement, on puisse proposer des tarifs plus abordables. Mais la chose importante, c'est de le souligner auprès de son prospect, de signifier voilà, qu'on fait une remise par rapport aux tarifs qu'on ferait en général, parce qu'on débute, on peut lui préciser que c'est parce qu'on débute ou non d'ailleurs, mais bien souligner le fait qu'on fait une remise pour que le prospect ne s'habitue pas déjà à des tarifs trop bas et pour que le prospect ait conscience de l'effort qui est réalisé. Et puis, une négociation, c'est donnant-donnant. Donc si on fait effectivement cette remise, on peut obtenir quelque chose en échange, quelque chose de très simple. C'est par exemple de négocier un avis client, dire « Ok, on fait cette remise. » Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la prestation, si vous êtes satisfait évidemment, eh bien, on puisse faire une étude de cas ensemble, ou je puisse faire une interview vidéo, ou que vous acceptiez de publier un avis sur ce qu'on a partagé lors de cette première collaboration.
Positif en fait.
C'est ça. Et la négociation, on est vraiment là-dedans dans la négociation. Hein. On est dans du donnant-donnant. J'aime pas la notion de compromis parce que compromis, ça voudrait dire que y en a un qui renonce à ça, l'autre qui renonce à ça, et puis à la fin, on a quoi ? Non, c'est donnant-donnant et on construit ensemble un projet qui est un projet, un deal où chacun y trouve son compte.
Être clair dès le départ, effectivement, c'est très important. Alexandre nous dit, dans la suite de ce qu'on vient d'affirmer, ça fait 2 ans que mon activité tourne. Je souhaite augmenter mes tarifs avec l'augmentation des charges, mais comment l'expliquer aux clients? Si on a été clair au départ, ça s'explique mieux.
Oui, je pense que dans la négociation, tout est question de communication, tout est question de clarté, tout est question aussi d'honnêteté. Si à un moment donné, vous avez trop de charges et que vous n'arrivez plus à les supporter avec ce que vous facturez, ça n'a pas de sens. Hein, être entrepreneur, ça fonctionne, oui, c'est être entrepreneur par le statut, mais c'est aussi par libre, aussi par le revenu. Et si votre revenu ne vous permet plus d'être libre, c'est quand même très embêtant. Donc la première chose, c'est de poser les chiffres, peut-être pour se convaincre soi-même, parce que si on est vraiment convaincu nous-mêmes qu'il faut augmenter ses tarifs, c'est plus évident à communiquer à son client. Et je pense que oui, tout est possible si c'est bien amené, si c'est bien expliqué, si c'est argumenté. Le client peut parfaitement comprendre s'il est attaché, s'il est fidèle. Il va pas avoir envie de changer pour une augmentation de 10 ou 15% à mon avis.
Cette subtilité, c'est vrai que c'est important. Pour terminer, je travaille au forfait, je dépasse tout le temps mes horaires car mes clients me rajoutent souvent des demandes. J'ai peur de facturer en plus et de recevoir une réprimande. C'est une femme qui nous le dit, c'est Carole.
Oui.
Et c'est vrai que c'est important.
Oui. Cette question m'a fait penser au syndrome de l'imposteur, qui est un syndrome qui touche beaucoup d'entrepreneurs. Là, on a un problème de confiance. Si la personne, si c'est un client historique et que le cadre ne lui convient pas et qu'elle le subit, il faut travailler sur la confiance en soi.
Et la communication,
Et la communication, effectivement. Ouais. Et la confiance en soi, comment, sur le syndrome de l'imposteur, comment régler ça? L'un des moyens, c'est d'essayer d'intégrer des réseaux où on va avoir des professionnels qui ont la même activité que nous. Ça va beaucoup nous rassurer, on va beaucoup échanger, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent la même chose, oui, etc. Et ça, c'est un très bon moyen pour lutter contre le syndrome de l'imposteur.
En tout cas, ne pas avoir peur, dès le départ, de parler d'argent, de laisser une place importante à cette négociation des tarifs, Ludovic.
Exactement, c'est absolument fondamental. Merci d'ailleurs, je veux juste dire merci à la communauté Abi qui relaie l'émission et qui nous a envoyé pas mal de questions sur cette émission.
Énormément de questions. En effet, à chaque fois qu'on traite ces questions-là, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Merci Ludovic Badaud d'être venu nous voir, spécialiste du régime de la micro-entreprise. BFM avec vous continue dans un instant. On recrute, à tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous recrute comme tous les jours. Notre premier recruteur est Fabio Rinaldi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du directoire de Big Mat France, 3400 employés en France, mais vous êtes présent dans plusieurs pays européens, 7 pays européens, c'est ça ?
Oui,
rappelez-nous ce que fait Big Mat. On voit bien l'enseigne Big Mat France.
Oui, alors Big Mat, on la voit parce que Big Mat a un peu plus de 40 ans. C'est le premier groupement de distributeurs indépendants en matériaux de construction au niveau européen. Ça pèse un peu plus de 900 points de vente, près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, effectivement dans 7 pays. Et au niveau France, ce sont 300 points de vente, 90 entrepreneurs, parce que nous sommes une coopérative. Et cette année, nous allons approcher le milliard d'eux.
Alors, quelle est la répartition dans vos clients? C'est des artisans, c'est des particuliers? Comment ça se répartit?
La répartition, ce sont principalement des artisans, à peu près à 80% oui, d'artisans et 20% de particuliers, en sachant que nous avons souvent des particuliers qui viennent pour faire appel ensuite à un artisan.
On n'est pas très étonné de vous voir chez Big Mat en ce moment avec ce qui se passe dans le monde du bâtiment, la construction. Vous êtes, on l'a dit, 3400 en France.
Oui.
Et vous allez recruter combien de personnes dans l'année qui vient?
Alors l'année, ça fait... On a une dynamique assez forte depuis quelques temps. Et en 2023, nous comptons recruter environ 400 personnes.
Alors des postes, j'imagine, plein de postes sur autant de recrutements. Mais quels sont les 4-5 postes dans lesquels vous avez le plus de besoins, finalement?
Les besoins sont principalement sur les chauffeurs-livreurs.
On a souvent cette demande, hein. Vous avez beaucoup de concurrents.
Hein. Je sais. Magasiniers, vendeurs comptoirs, voilà, ça ce sont les postes, en tout cas dans la distribution, qui sont sous tension. Je l'étendrai, si on regarde au bâtiment, parce que c'est une chaîne économique, les maçons, les chefs d'équipe, voilà, donc il y a une tension très forte sur nos métiers.
Ouais. Et alors, vous avez beaucoup de postes à pourvoir, vous avez une demande spécifique sur l'expérience, les profils que vous demandez, que vous recherchez?
Ben, la situation aujourd'hui est telle que, vous savez, on commence à l'apprenti. Nous avons une vocation aussi de former les jeunes, mais nous prenons aussi des seniors, des gens en reconversion. Donc on est vraiment très très ouvert. Les métiers s'apprennent aussi un peu sur le terrain. Alors, un chauffeur-livreur, il lui faut évidemment des compétences et des permis. Il faut un CACES pour un magasinier qui va être amené à préparer les livraisons sur des petits chariots élévateurs. Mais ça, soit vous l'avez, soit vous pouvez rentrer et puis être formé, suivre des formations que nous finançons pour nos collaborateurs. Et pouvoir exercer ses fonctions.
Ils sont localisés où, les postes ?
Alors, ils sont localisés partout en France, puisque nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire. C'est peut-être d'ailleurs ce qui, aujourd'hui... Alors, nous avons des postes partout, mais vous n'avez pas forcément, et je crois que c'est l'objet un peu des pénuries dans plusieurs secteurs d'activité, c'est que vous n'avez pas forcément les bonnes compétences aux bons endroits.
Oui.
Et c'est ce qui nous met un peu en difficulté en ce moment.
Il y a peut-être une région ou deux où il faut particulièrement insister, peut-être, pour ces recrutements.
Vous avez vraiment... Si vous regardez sur nos réseaux sociaux, vous verrez qu'on recrute en Rhône-Alpes, Rhône-Alpes, en Normandie, partout. Partout. Ouais. Sur la côte atlantique.
Pas de télétravail, ce sont des postes vraiment de... qui nécessite du présentiel.
C'est simplement, c'est la logique fait que, puisque ce sont des points de vente, un livreur, un magasinier, quelqu'un qui vous reçoit, il est obligé d'être sur son poste de travail. Donc il n'y a pas de télétravail dans ces fonctions. En revanche, par exemple, nous au siège, nous avons une charte télétravail qui était avant Covid d'une journée, qui est aujourd'hui de 2 jours maximum par semaine.
Des chefs d'agence, des chauffeurs, livreurs, des magasiniers, caristes, on l'a dit, des vendeurs conseils, 400 postes, donc on l'a dit, dans les mois qui viennent à retrouver sur votre site et sur bigmat.fr, c'est bien ça?
C'est ça, ou sur les réseaux sociaux aussi.
Et sur les réseaux sociaux, merci beaucoup. Emmanuel de Saint-Ignon, vous êtes notre deuxième recruteur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Users Love It. Qu'est-ce que c'est que Users Love It?
Alors, Users Love It, ULIT, c'est un éditeur de logiciels qui travaille justement sur la relation commerciale entre les fournisseurs et les distributeurs de la grande distribution. Et donc, cette relation, elle est complexe, elle est tendue.
On en parle souvent sur ce plateau, des négociations commerciales.
Voilà, de plus en plus complexe. Et donc, nous, et chose un peu contre-intuitive, les départements commerciaux sont très peu digitalisés. Et avec ULIT, on a créé une plateforme qui va permettre de chacun des côtés, chez les fournisseurs et chez les distributeurs, de digitaliser leur organisation et aussi une plateforme qui permet de fluidifier la relation.
Oui,
je pense en accélérant et en fluidifiant la relation, de faire descendre toutes les tensions et de trouver de nouvelles opportunités.
Donc vous êtes 21 actuellement sur cette plateforme. Vous allez quasiment doubler votre nombre de collaborateurs.
Tout à fait. On a doublé déjà cette année. On va doubler l'année prochaine et on va encore doubler l'année suivante.
Alors vous avez besoin de quel type de poste?
Alors on a besoin de commerciaux, donc pour assurer notre développement et la croissance de l'entreprise, mais aussi on a besoin d'experts métiers, puisque comme on vient de le dire, on est sur des domaines vraiment d'expertise où on va retrouver des anciens acheteurs, des anciens comptes clés, des anciennes personnes du marketing, et puis des super consultants qui vont apprendre aussi sur le tas. Et donc voilà, on recherche tous ces personnes-là.
Et c'est pareil, la localisation, elle se fait où?
Elle se fait à Paris et à Lille.
À Paris et à Lille. Vous êtes basé vous-même en région parisienne et à Lille.
Voilà, tout à fait. Ouais. Et on est donc on a plutôt la force de vente, donc le développement commercial est fait avec les équipes parisiennes et toute la partie conception, développement est fait à Euratechnologie à Lille où on va retrouver les consultants.
Ce sont des postes qui sont particulièrement donnés, distribués à la sortie des écoles de commerce notamment, en début de carrière. Est-ce que c'est les profils, le type de profil que vous recherchez ou finalement des gens peut-être plus expérimentés ou en reconversion peuvent aussi faire l'affaire?
Eh ben, les deux en réalité, puisqu'on va travailler avec les universités sur les salons et en accord avec les universités pour trouver des personnes qui sont sorties d'école et qu'on va pouvoir former sur les métiers. Et de l'autre côté, aussi avoir des personnes qui cherchent un sens un peu différent de ce qu'ils trouvent aujourd'hui dans les grandes entreprises et qui vont venir chez nous pour pouvoir avoir un peu plus d'opportunités de développement de leurs compétences et de l'étendre sur plusieurs clients et pas rester sur un seul client.
Est-ce que vous proposez de les former dans un premier temps? Parce que vous l'avez dit, le secteur n'est pas particulièrement digitalisé, il est assez en retard par rapport au reste de l'économie sur cet aspect des choses. Est-ce qu'ils sont prêts quand ils arrivent ou est-ce que vous les formez quelques semaines?
Vous parlez des clients ou de nos collaborateurs?
Des collaborateurs, bien sûr.
Alors, sur les collaborateurs, bien sûr, on est obligé de les former et de leur apprendre tous les abacs qu'il y a autour de ces métiers et toutes les subtilités, puisqu'il y a ce qui est dit et ce qui est dans... Quand on parle des négociateurs, il y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Et donc, on va leur apprendre à décrypter tous ces messages et puis à devenir des super experts du domaine.
Tous les collaborateurs, je lis, sont en télétravail, tous, tout le temps?
Tous, 100%.
100%.
Ouais.
Mais il y a des réunions, vous faites du travail collectif quand
même. Voilà, on fait du travail collectif, soit à la demande, soit une fois par semaine, une fois par mois, en fonction des besoins. Mais le principe de l'entreprise, c'est l'autonomie des collaborateurs, la façon dont on travaille pour que chacun se fixe ses objectifs et comment il va obtenir ses objectifs. Et de l'autre côté, d'avoir des moments qui sont sympas où on se retrouve ensemble. mais et où on peut vraiment travailler les orientations de l'entreprise.
Ça s'appelle ULIT, Users Love It, la digitalisation des relations commerciales, en fait, en quelque sorte, c'est
exactement.
Ça. Vous pouvez postuler sur contact@userslovesit.com, c'est pas la même chose, .com, évidemment, sur le site, également 24 postes du développement commercial, junior, des consultants, des développeurs à Lille et en région parisienne. Merci beaucoup d'être venu, Emmanuel de Saint-Ignon, fondateur de Users Love It. Merci messieurs, merci à tous les deux. Cette émission est à retrouver en podcast et en replay, évidemment. Moi, je vous retrouve demain à midi sur BFM Business. N'oubliez pas de nous écrire sur notre adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Vous nous posez toutes vos questions, vous nous demandez de recrutement, vous nous faites part de vos demandes et nous y répondons avec Lorraine Goumeau, évidemment. Très bonne journée sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.